Minute Papillon sur France Bleu, Sidonie Bonnec.
C'est un champion de natation. Il détient l'un des plus beaux palmarès des bassins français. Mais il a aussi survécu à l'enfer de la Shoah. Vous allez découvrir tout de suite le destin d'Alfred Nakache, surnommé le nageur d'Auschwitz. Bonjour Renaud Leblon.
Bonjour.
Bienvenue. Dans Minute Papillon, vous êtes journaliste, écrivain, éditeur, et vous allez nous raconter ce destin bouleversant, passionnant. Alfred Nakache, champion de natation et survivant du camp d'Auschwitz. Vous nous rappelez son magnifique palmarès?
Bah écoutez, ça a été un immense champion dans les années 30, ouais. Une vedette, vraiment. Deux records du monde en 200 mètres brasse papillon, des records d'Europe, de nombreux records d'Europe, des titres de champion de France en 1938, en 1942, on y reviendra. Enfin, un immense champion et en plus très aimé des Français, très populaire.
Et pourtant, rien ne prédestinait Alfred Nakache, et c'est ça qui est génial dans cette histoire aussi, à devenir un champion de natation. Il en pensait quoi de l'eau quand il était petit?
Il avait une vraie phobie de l'eau. On se moquait très affectueusement de lui à Constantine parce que voilà, il n'arrivait pas à lâcher le bord du bassin. Et puis un jour, il y a eu un déclic. Un soldat de l'équipe de natation militaire, ouais. De l'équipe de France militaire, qui était là, qui a remarqué que bah voilà, il était en panique dans l'eau et il l'a aidé et il lui a appris les bons gestes. Et puis le déclic s'est produit et c'est le départ d'une incroyable histoire.
Et c'est une très belle scène que vous racontez dans votre roman Le Destin d'Alfred Nakache. Ce roman s'appelle Le Nageur d'Auschwitz, c'est aux éditions L'Archipel. Il y a cette scène où on voit ce petit garçon justement qui en a envie mais qui n'ose pas trop et ce type qui va lui tendre la main. C'est vraiment la rencontre qui a changé sa vie?
Ah, complètement, c'est le déclic. Il raconte aussi une autre chose, c'est qu'il jouait au foot avec ses copains, il jouait pieds nus et ses copains lui ont fait une petite blague. On mis ses chaussures dans l'oued qui était en bas de Constantine,
ouais.
Et donc il est en lui disant va chercher là-bas, c'est par là. Il y a été, il y avait 75 cm de profondeur, c'était pas énorme, mais là il s'est rendu compte en y allant et en retrouvant ses chaussures que c'était pas si difficile et que on pouvait appréhender l'eau,
avoir du plaisir même dans l'eau,
absolument, et surmonter cette peur. Voilà.
Quand on va revenir un petit peu en arrière sur l'enfance d'Alfred Nakache, c'est vraiment impressionnant de voir comment sont fabriqués, comment naissent ces héros qui nous passionnent. Quand et dans quelle famille naît Alfred Nakache?
Il naît dans une famille juive de Constantine, d'un quartier qui est au bord du rocher de Constantine.
Faut dire qu'on est en Algérie.
On est en Algérie, bien sûr, ouais. En Kabylie, et c'est à 800 mètres dans les montagnes, c'est à 800 mètres d'altitude. C'est très impressionnant comme décor, avec des ponts suspendus entre les deux rives en fait de cet immense rocher. Et puis il y a l'oued en bas, et puis là une piscine extraordinaire,
c'est
une petite rivière qui, ouais. Pardon, qui
c'est le nom de la rivière.
Ce sont les gorges de Rumel.
Ah ouais.
Ça, on peut aller voir sur Internet, c'est absolument ouais. Magnifique. Et puis, il y a une superbe piscine au fond de ces gorges. Et c'est là qu'avec toute sa famille, une famille très nombreuse, il venait tous les week-ends pour pique-niquer, nager, quand il a réussi enfin à surmonter cette peur de l'eau. Donc une famille très unie.
De confession juive,
pratiquante.
Ils sont arrivés il y a longtemps,
oui,
en Algérie
plusieurs siècles. Ouais. Oui, absolument. Et voilà. Et Alfred est un enfant qui est à la fois d'une nature très généreuse, plein d'entrain, bon élève, et suivant très très bien les cours aussi de ce qu'on appelle l'Alliance, c'est-à-dire c'est l'école où on apprend les textes sacrés, parce qu'il veut absolument que son père soit fier de lui. Il y tient beaucoup, évidemment. Donc ça, c'est l'enfance d'Alfred.
Avec cette révélation à 14 ans où il commence à apprivoiser l'eau, là, il va commencer vraiment à s'entraîner, à devenir nageur.
Absolument. Et il va s'entraîner vraiment tout seul, sans entraîneur. Et c'est ce qui explique aussi qu'il a un style pas du tout académique, qu'il n'arrivera jamais à corriger, mais qui fera aussi tout son succès. Et il va faire une première course en 1931 et à Alger. Et là, la presse va à la fois le soutenir et un peu lui dire « Fais attention, Alfred, parce qu'il est sorti de sa ligne d'eau. Quel étourdi, cet Alfred !»
Parce que il nage un peu comme il a envie, quoi.
Exactement. C'est vraiment pas académique comme style. Mais il gagne en puissance, en force, ouais. Et puis il a un mental incroyable, quoi. Plus tard, on dira, on parlera d'un grand indomptable.
Génial. Alfred Nakache, son histoire dans Minute Papillon. À 15 ans, il va rencontrer une femme qui va être importante aussi dans sa vie. Elle s'appelle Paul.
Oui, absolument. Elle est aussi d'une famille juive du quartier de Constantine, du quartier juif de Constantine. Elle est très bonne élève, très brillante. Elle aime beaucoup nager. Elle va participer à quelques compétition universitaire, mais elle va surtout suivre Alfred et l'encourager tout au long de sa vie. Il a eu des paroles quand il est revenu, on y reviendra, mais extrêmement touchantes pour son épouse, en disant qu'elle a accompagné toute sa vie de brasse en brasse.
On est en 1933, Hitler arrive au pouvoir en Allemagne et Alfred Nakache va lui continuer son ascension. Quel est le projet de son entraîneur pour lui ?
Très clairement, il y a les Jeux Olympiques de Berlin en 36. Lui, il arrive en France.
Il a quel âge d'ailleurs là à cette époque?
Il a en 33 quand il arrive en France, il a 17 ans. Ouais. Donc voilà, 3 ans de plus, 20. Ouais. Il a 20 ans. Donc il est très jeune. C'est vraiment l'espoir de la natation française. Et quand il arrive en France, en métropole, il est accueilli au lycée Janson de Sailly, où il va suivre des études pour devenir professeur aussi d'éducation physique et sportive. Et clairement, là, il s'entraîne aux côtés d'un immense champion de l'époque, qu'on appelait le roi de l'eau, qui s'appelle Jean Tarisse. Il y a des piscines Jean Tarisse en France, un peu partout. Lui, c'était son modèle absolu. Il a eu presque honte de dépasser, enfin gêné en tout cas de dépasser le maître à un moment donné, puisqu'il l'a battu assez rapidement sur le 100 mètres. Et il est devenu, il a été sélectionné pour les Jeux Olympiques de Berlin, qui était à la fois pour lui un accomplissement et en même temps évidemment une source d'inquiétude, parce qu'il savait très bien ce qui se passait en Allemagne et que c'était un régime ouvertement antisémite.
Avant de raconter ces JO, on va à Renaud Leblond raconter la technique de nage qu'Alfred Nakache va s'approprier.
Alors c'est effectivement, arrive dans la fin des années 30, une nage venue des États-Unis qui est le, alors ça tombe bien, ouais. Avec le nom de votre émission, qui est la brasse papillon.
C'est américain ça?
Ouais, ça vient des États-Unis et ça va donner le papillon qu'on connaît aujourd'hui. Mais à l'époque, le mouvement des jambes, c'est celui de la brasse traditionnelle, et le mouvement du haut du corps, des épaules, c'est celui du papillon qu'on connaît. Et alors c'est évidemment une nage pour les costauds. Vraiment, enfin, il faut avoir une force incroyable pour exceller dans cette discipline. Et son entraîneur va lui dire « ça, c'est fait pour toi ». Et en plus, c'est la nage la plus spectaculaire à voir.
Et quand ça arrive en France, ça fait ça a du succès, cette nage-là, portée par Alfred Nakache.
Oh oui, c'est extrêmement commenté dans les journaux sportifs, partout, c'est très spectaculaire. Et encore une fois, on le sait pas, mais les nageurs sont à l'époque des vraies vedettes dans les journaux.
Ah oui. Alors qu'aujourd'hui, on a quand même quelques nageurs stars. On a
oui.
eu, on en a eu quelques-uns. Et donc, on va parler de ces JO de Berlin en 1936. Alfred Nakache est flatté d'être sélectionné. En même temps, il a peur d'y aller. Il y va.
Il y va avec l'équipe de France. Ça va pas très très bien se passer. Parce que ils sont tous pas très bien. Ils sont tous un peu patraques. Ils se sont posés la question de savoir pourquoi ils étaient patraques comme ça en rentrant d'ailleurs.
En revenant.
Donc ça n'a pas été sur le plan des résultats extraordinaires. Il y a eu une satisfaction pour eux très forte à l'époque dans le contexte de rivalité évidemment très fort avec l'Allemagne, c'est qu'ils ont battu en relais les Allemands. Ils ont terminé à la quatrième place, mais en battant les Allemands. Donc ça, ils sont revenus avec cette satisfaction-là.
La Seconde Guerre mondiale éclate et Alfred Nakache continue d'enchaîner les victoires. Il bat même un record du monde sous l'occupation allemande. Mais son destin va bientôt basculer. La suite de l'aventure du destin extraordinaire du nageur d'Auschwitz, c'est tout de suite dans Minute Papillon.
Minute Papillon, on en apprend tous les jours sur France Bleu.
Il bat des records du monde, il enchaîne les victoires, il maîtrise la nage papillon, du papillon comme personne. Alfred Nakache a tout pour devenir le plus grand nageur du monde. Mais en 1943, son destin bascule et c'est l'écrivain, éditeur, journaliste Renaud Leblond qui nous raconte ce destin extraordinaire à l'occasion de la sortie de votre roman Le nageur d'Auschwitz aux éditions L'Archipel. La guerre éclate en 1939 et Alfred Nakache est un champion de natation encore en pleine ascension. Est-ce qu'il va rejoindre l'armée française?
Oui, il va être mobilisé, il va même partir en Algérie assétif, mais très vite, on va le rappeler, parce que voilà, on compte, même dans ces heures très, très graves, on pense qu'il faut qu'il continue à nager, qu'il puisse continuer à s'entraîner. Donc, il va être démobilisé. Mais il va connaître un drame, c'est que c'est l'aîné, en fait, des frères, hein, dans la famille. Et son petit frère, Roger, va mourir au front, sous la mitraille. Et ça va être évidemment un grand choc pour lui.
La France est occupée en 1941 et Paris devient clairement une ville bien trop dangereuse pour lui et sa famille. Qu'est-ce qu'il va décider ?
On va lui dire, il faut vraiment que tu partes. C'est beaucoup trop dangereux. Il a été protégé assez longtemps par Borotra. Jean Borotra, le célèbre tennisman, qui était l'équivalent du ministre des Sports, qu'il avait même emmené dans une tournée en Afrique du Nord. Mais cela dit, ça devenait trop dangereux. Les attaques dans les journaux commençaient vraiment à se développer, même s'il y avait toujours, encore à ce moment-là, le prestige qui gagnait. Mais cela dit, c'était trop dangereux, il fallait partir. Donc il est allé dans ce qu'on appelait la zone libre, dans le sud de la France, à Toulouse, rejoindre un excellent club de natation qui s'appelle Les Dauphins. Et c'est là où il va absolument exceller jusqu'en 43. En 42, il va tout gagner. Il va gagner 5 championnats de France d'affilée, alors même que dans la zone occupée, les Juifs sont interdits de bassin.
Il va même battre un record du monde en 1941 à Marseille.
À Marseille, dans cette piscine d'eau salée, connue comme la plus rapide d'Europe, se déroulent les championnats de France scolaires et universitaires de natation de zone libre. Au cours de ce championnat, Alfred Nakache, le célèbre champion français, tente de battre le record du monde des 200 mètres brasse détenu par l'Américain Kessler avec 2 minutes 37 secondes 2 dixièmes. Terminant 2 minutes 36 secondes 8 dixièmes, Nakache bat de 4 dixièmes de seconde le record antérieur, donnant à la France une place dans le palmarès des records de natation.
Très belle archive de l'ORTF trouvée par Déborah Douté. Et Alfred Nakache, il a un destin dingue et on est obligé d'accélérer son destin puisqu'il bascule en 1943, tôt le matin, un matin de décembre. Alfred, Paul et Annie, leur fille, sont arrêtés. Où est-ce qu'ils sont emmenés ?
Ils vont être emmenés à la prison Saint-Michel, qui est la prison à Toulouse où tous les résistants sont emprisonnés en attente d'un sort pour la plupart dramatique. Il faut savoir que ce qui est complètement fou dans cette histoire, c'est que quand Alfred Nakache part à Toulouse pour se sentir plus protégé, en fait, il a un rival dans les bassins et hors des bassins qui s'appelle Jacques Cartonnet, qui est un nageur qui est vraiment à l'opposé de ce qu'il est, lui, Alfred, un esthète de la natation, etc. Il va prendre ombrage de l'ascension d'Alfred Nakache, il va écrire des articles antisémites dans des journaux sportifs, et il va rejoindre Alfred Nakache à Toulouse, il va rejoindre la ville, pour intégrer la milice de Haute-Garonne. Ce qui fait que Alfred Nakache a toujours pensé que dans cette arrestation, il avait une part de responsabilité très forte.
Il est déporté à Auschwitz, c'est quoi leur quotidien là-bas ? Lui, sa femme, sa fille.
D'abord, ils sont séparés sur le quai à l'arrivée. Donc, c'est la dernière fois qu'il voit sa femme et sa fille. Enfin, il espère les revoir. Mais là ils sont séparés et ils savent pas où ils vont. Alfred Nakache, lui, est affecté à l'infirmerie. Il est reconnu par les officiers nazis. Parce qu'encore une fois, c'est quelqu'un de très connu.
Ils savent que c'est un champion.
Ah oui, ils le reconnaissent tout de suite. Ils disent, tu iras à l'infirmerie. Et là, à l'infirmerie, il va devenir l'assistant d'un professeur de médecine formidable, un résistant strasbourgeois. Et ils vont faire tout ce qu'ils peuvent pour aider les autres détenus.
Comment ils vont faire ?
Eh ben, ils vont essayer d'organiser des filières de distribution de nourriture. Ils vont essayer de soigner ceux qui peuvent l'être, etc. À leur risque et péril. Et puis le quotidien pour Alfred Nakache, c'est le quotidien que beaucoup de sportifs de haut niveau ont connu dans les camps. C'est-à-dire que les nazis jouent avec eux dans une espèce d'exercice un peu d'humiliation. On demande à Nakache, par exemple, d'aller chercher un poignard au fond d'un bassin de rétention d'eau, une eau glaciale
dégoûtante,
etc.
Il doit ramener avec les dents.
Et qui ramène le poignard entre les dents, comme ça, pour. Et s'il y arrive, bah, il a une petite récompense.
S'il a gagné, il y est arrivé d'ailleurs.
Oui, il est arrivé, il l'a fait. Mais
petite boulette supplémentaire dans la soupe insipide.
Absolument. Ouais. Ouais. Mais très vite, il s'est dit moi, je vais les défier et je vais nager pour moi. Et il se trouve qu'il y avait d'autres bassins à l'autre bout du camp, des bassins de 15 mètres sur 6 mètres, comme ça, qui servaient pour en cas d'incendie. Voilà,
des réserves
d'eau pour les incendies. Et grâce à la complicité de tout un système, tout un réseau de francophones, de guetteurs parmi les francophones du camp. Il a réussi l'été 44 à nager plusieurs heures durant à l'autre bout du camp, voilà, 6 ou 7 fois. Et c'était pour lui une manière de se sentir vivant, de dire je suis vivant, je suis un homme, et puis de raconter ensuite tout ça aux autres pour qu'ils gardent de l'espoir.
Ça vous émeut cette histoire, hein?
Oui, c'est d'une audace et d'une générosité vis-à-vis des autres extraordinaire. Il fallait le faire, c'était vraiment assez risqué péril. Il pouvait se faire fusiller dans la minute s'il était pris. Donc c'est un acte très extraordinaire humainement.
Une histoire que vous racontez magnifiquement sur une plume extraordinaire, Renaud Leblond, dans ce roman Le Nageur d'Auschwitz, c'est aux éditions L'Archipel. Alfred Nakache va survivre à l'enfer des camps, il va reconstruire sa vie grâce à la natation. Je vous raconte la suite et la fin de son histoire juste après. This is Life, c'est une vie incroyable qu'on raconte dans Minute Papillon.
France Bleu, Minute Papillon.
Je vous raconte le destin d'Alfred Nakache, champion de natation, survivant de la Shoah grâce à l'écrivain Renaud Leblond. À la libération, donc, Alfred Nakache a passé un peu plus de 12 mois dans ce camp d'Auschwitz. Et un journal va annoncer sa mort et pourtant il a bien survécu au camp. Dans quelles circonstances en est-il sorti? Est-ce qu'il s'est échappé? Est-ce qu'il a été évacué?
En fait, oui, effectivement, un journal, Le Patriote de Lyon, repris par l'Écho d'Alger, que je cite dans le livre, annonce que Alfred Nakache a péri en Silésie, dans les mines de sel de Silésie. Et donc la France est libérée, là, à ce moment-là, enfin ouais. Commence à être libérée. Et à Toulouse, qui a retrouvé la liberté, on est évidemment sous le choc et on décide de donner le nom d'Alfred Nakache à la piscine municipale. Donc il y a toute une cérémonie en son hommage, sauf que il est bien vivant. En fait, après l'évacuation du camp d'Auschwitz sous la pression des soviétiques, les nazis sont partis avec des milliers de déportés dans ce qu'on a appelé la marche de la mort, qui était une marche épouvantable, un froid absolument glacial, terrifiant. Les gens mouraient de faim, beaucoup étaient exécutés. Il y a le célèbre boxeur Victor Young Pérez, qui était le plus jeune champion du monde poids plume en France, qui était originaire de Tunis, juif tunisien, qui a été exécuté pendant la marche de la mort. Alfred, lui, va survivre et il va être emmené à Buchenwald. Donc il va reconnaître l'enfer des camps à Buchenwald. Et ce sont les Américains qui, en avril 45, vont libérer le camp de Buchenwald. Mais tout le monde en France le croit mort. Et quand il revient et qu'on le retrouve à l'hôpital la Pitié-Salpêtrière, c'est un étonnement extraordinaire, en disant « Nakache est vivant ».
Et sa femme, Paul, et sa fille, Annie, est-ce qu'il a des nouvelles?
Il n'a aucune nouvelle. En fait, quand il retourne les journalistes lui demandent « Mais Alfred, est-ce que vous allez vous remettre à nager, etc. ?» Il dit « Écoutez, c'est son expression, laissez-moi sortir de ma tombe et après on verra. » Et il revient à Toulouse, il est formidablement bien accueilli, évidemment, par toute la famille des dauphins de Toulouse, qui l'aide à reprendre des forces, se reconstituer, et puis petit à petit, il va se remettre à nager de plus en plus vite. Tous les jours, il va à la gare de Montabio, à Toulouse, une rose à la main, dans l'espoir que sa femme et sa fille descendent du train. Et puis un jour, un téléx, un message arrive, qui lui apprend, qui lui confirme que sa petite Annie, qui avait 3 ans à l'époque, a été gazée dès leur arrivée à Auschwitz, et il n'y avait pas un seul mot sur sa femme, Paul, mais enfin bon... On comprend.
Alfred Nakache va arrêter la compétition vers quel âge?
Eh bien, il va continuer, il va avoir cette force. Moi, j'imagine, et ça, c'est la possibilité que donne le roman,
oui,
quelque part.
Parce que c'est une histoire absolument vraie.
Oui, c'est absolument vrai, tout est vrai.
Et vous y mettez de la chair
mais
avec votre talent d'écrivain.
J'essaye de retranscrire ce qu'il a pu ressentir. Et c'est vrai que ça interroge de voir qu'il arrive à nager encore, à participer à des compétitions. Je pense qu'évidemment, il le fait pour sa femme et sa fille. Et il va à Marseille, en août 46, regagner en relais, cette fois, avec ses copains dauphins du club, un record du monde. Et ça, c'est absolument extraordinaire.
C'est fou, hein. Il s'éteint à quel âge et dans quelles circonstances, Alfred Nakache?
Alors après, il a après son record du monde à Marseille, il a participé aux Jeux Olympiques de Londres, qui étaient vraiment les Jeux de la liberté, hein, retrouvée. Mais sauf que lui, il a plus le cœur, il a plus les jambes, et il va arrêter après ces Jeux. Il va enseigner la natation, il va s'installer dans le sud de la France. Il va connaître une femme, Marie, qui va lui redonner le sourire.
Il aura d'autres enfants?
Il n'aura pas d'autres enfants. Et tous les jours, dans la baie de Cerbère, un peu comme un rituel, en brasse ou en crawl, il va nager, tous les jours. Et c'est en nageant, en 1983, qu'il va être terrassé par une crise cardiaque et va mourir dans l'eau.
Comment vous avez reconstitué son destin, Renaud Leblond ?
J'ai beaucoup lu. Vous savez, en 2019, les Américains ont reconnu en lui la figure du héros. Ils l'ont intronisé à titre posthume dans ce qu'on appelle le Swimming Hall of Fame en Floride, le panthéon mondial de la natation. Et donc, il y a eu des papiers à ce moment-là sur son histoire. Moi, je la connaissais pas. Elle m'a tout de suite bouleversé. Et j'ai beaucoup lu des livres de nageurs qui ont nagé avec lui à l'époque.
Oui.
Des témoignages, évidemment, de déportés qui l'ont croisé, avec qui ils ont vécu avec Alfred Nakache des heures terribles dont ils témoignent, et ils témoignent tous de l'extraordinaire sens du partage d'Alfred Nakache, et ça évidemment ça m'a nourri pour écrire ce roman.
Et en un mot, vraiment un tout petit mot, son fameux rival qu'il a peut-être dénoncé, qui s'est engagé dans les milices toulousaines, qu'est-ce qu'il est devenu?
Bah écoutez, il a été condamné à mort par contumace en 45. Il a été arrêté à Rome à deux reprises. Et la deuxième fois, il s'est évadé, en fait, il a sauté de l'avion militaire qui le ramenait en France pour être jugé, et on n'a jamais retrouvé sa trace.
Quelle histoire magnifique que vous nous racontez, ce livre, ce roman à lire vraiment, Le Nageur d'Auschwitz aux éditions Archipel. Merci Renaud Leblond, c'est un bonheur de vous rencontrer.
Merci beaucoup.
Merci pour cette histoire bouleversante. Minute Papillon, c'est terminé. On se retrouve demain à 14h. Vous allez découvrir tous les secrets du prince William à l'occasion de ses 40 ans. Et on va savourer aussi le destin fracassant, mais fracassé également, de Nina Simone. Tout de suite, je laisse la main à... C'est déjà demain. Passez une très belle après-midi à l'écoute de France Bleu.